le 7-10.
Listen anywhere.
Huawei Duba.
Wahdahu min Souria. Nibrinit.
Sur France Inter.
Géopolitique, Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous nous parlez, Pierre, de la guerre des cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.
La guerre des cessez-le-feu, ça ressemble à un oxymore, deux concepts contraires. Et pourtant, on peut rivaliser dans la trêve comme dans le combat. Samedi, Vladimir Poutine a annoncé une trêve surprise de 2 jours à l'occasion de Pâques. Aussitôt, Volodymyr Zelensky s'est aligné sur cet arrêt des combats. Mais Moscou comme Kiev ont fait état de centaines de violations de la trêve, Pascal, de part et d'autre sur le front, même si les grandes villes ukrainiennes ont été épargnées pendant ces 2 jours. Ce n'est pas la première escarmouche sur la question du cessez-le-feu. Il y a 5 semaines déjà, l'Ukraine a accepté, lors d'une rencontre avec les États-Unis en Arabie Saoudite, un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. La balle était alors dans le camp russe, qui ne l'a pas saisi. Il n'y a pas eu de trêve, même partielle. Au contraire, le bombardement meurtrier de Soumy, il y a 8 jours, montre une intensification des frappes russes, y compris contre des cibles clairement civiles.
Alors pourquoi, Pierre, ces annonces de trêve ?
C'est d'abord de la communication en direction de Donald Trump. En Arabie Saoudite, les Ukrainiens sont allés au-delà des demandes américaines en se disant prêts à un cessez-le-feu total et inconditionnel pour regagner le terrain perdu lors de la désastreuse rencontre du Bureau ovale. La trêve a raté, mais la reprise du dialogue avec Washington a réussi. L'accord sur les minerais qui n'avait pas été signé lors du voyage de Zelensky à Washington devrait être conclu cette semaine. Cette fois, c'est Poutine qui envoie un message à Trump. 24 heures avant l'annonce de la trêve russe, le président américain s'était montré agacé par l'absence de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le roi du deal, qui avait promis la paix en 24 heures, est dans l'échec. Et son administration a menacé de tout envoyer balader si ça n'avance pas. Moscou et Kiev redoublent donc d'efforts pour qu'en cas d'échec, ce soit l'autre camp qui emporte la responsabilité.
Et où en sont les négociations ?
Nulle part en fait, Nicolas. Moscou a maintenu ses demandes maximalistes, à la fois pour garder ses conquêtes territoriales et, plus grave encore, s'assurer que l'Ukraine d'après sera démilitarisée et donc vulnérable. L'Ukraine et ses soutiens européens s'opposent à de telles conditions qui ont l'allure d'une capitulation. Les États-Unis envoient des signaux contradictoires. D'un côté, ils reprennent à leur compte une bonne partie du discours russe et semblent se laver les mains de ce qui arrivera après. Et de l'autre, ils ont repris un dialogue avec les Européens jeudi dernier à Paris, cette semaine à Londres. Une intensité nouvelle qui montre que plusieurs lignes cohabitent au sein de cette administration. Tout ceci ne laisse pas augurer d'une fin rapide du conflit, mais laisse planer le doute sur l'attitude américaine en cas d'échec. Les États-Unis tourneront-ils le dos à l'Ukraine, même s'il apparaît que c'est la Russie qui refuse tout compromis ? C'est tout l'enjeu de l'agitation diplomatique du moment, dans laquelle les Européens ont retrouvé un rôle en appui à une Ukraine qui joue sa survie. Hier soir, Kiev s'est dit prête à poursuivre une trêve partielle. La guerre des cessez-le-feu n'est pas terminée.
Pierre Aski, merci.